Radio Cité Genève, Viviane DeVitte.
La bouteille à moitié pleine.
Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 FM dans la bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, c'est notre ami, l'explorateur Mathieu Tordeur bien connu, qui revient nous parler de sa dernière expédition et puis bien sûr des futures aussi. Bonjour Mathieu.
Bonjour Viviane.
Alors d'abord j'ai appris que tu habitais maintenant pas très loin, enfin lorsque tu n'es pas en expédition bien entendu, tu habites à Annecy, donc tu n'es pas trop loin de nous,
Rapproché des montagnes, oui absolument, et c'est tout nouveau, donc je navigue entre la Haute-Savoie et encore un petit peu Paris, mais c'est vrai que ça fait du bien de se rapprocher des montagnes.
Tu es de moins en moins à Paris.
Oui, pour des raisons en fait personnelles et puis aussi... d'entraînement, de plaisir, le fait d'être loin de Paris, ça permet d'être plus proche de la nature, plus proche des montagnes, et ce lac à Annecy est fabuleux, donc c'est une région qui vit toute l'année, donc je suis désormais plus proche de la Suisse et des montagnes.
C'est très bien. Alors, tu as fait, Mathieu, en juin et juillet 2024, un très grand voyage, une très grande expédition au Groenland. D'abord, tu vas nous expliquer où est le Groenland pour les auditeurs qui ne sont pas tous des as en géographie.
Alors, le Groenland, c'est une très grande île qui fait quatre fois la taille de la France, qui est située en Arctique. L'Arctique, donc, c'est dans l'hémisphère nord, au-dessus donc, de la latitude 66. Vous savez, l'Arctique, c'est cette région qui englobe les pays scandinaves, l'Islande, une partie de la Russie, une partie des États-Unis avec l'Alaska, le Canada. Le Groenland, aujourd'hui, c'est un grand territoire qui est sous tutelle danoise, donc du pays du Danemark. Et c'est un pays qui est recouvert de glace et de neige. Il n'y a pas beaucoup d'habitants, il y a 50 000 habitants au Groenland qui vivent dans des villages sur la côte du continent, de l'île plutôt. Et ce Groenland, donc, on appelle ça une calotte polaire. C'est une île recouverte de glace et de neige. Et donc, c'est pas très loin de chez nous, finalement. On peut y accéder via l'Islande. Et donc, nous, on y est allé avec une glaciologue l'été dernier.
Alors, oui, justement. Alors, tu vas nous parler d'Heidi.
Ouais.
Alors, qui est-elle, Heidi?
Alors, Heidi Sevestre. Heidi, c'est une glaciologue qui vit pas très loin d'ici.
Elle a un prénom suisse, mais elle est française.
Absolument,
c'est ça?
Ouais. Ses parents lui ont donné un prénom suisse, mais elle est totalement française. Heidi, elle est glaciologue, donc son métier, c'est d'étudier les glaces, quelles qu'elles soient. Ça peut être les glaciers de montagne, ça peut être les calottes polaires comme le Groenland ou l'Antarctique, et aussi les banquises qu'on peut avoir, notamment en Arctique.
Comment est-ce qu'on devient glaciologue?
Il faudra lui demander, mais je sais qu'Heidi dit souvent qu'elle avait envie de passer le plus de temps possible sur les glaciers.
Et depuis
qu'elle est toute jeune,
elle
se balade en montagne, elle est passionnée par les glaces. Et un jour, elle a rencontré quelqu'un qui lui a dit que si elle voulait passer du temps avec les glaces et le plus possible, eh bien, elle pouvait devenir glaciologue. Et donc, elle a suivi un parcours scientifique pour devenir glaciologue. Elle a eu un doctorat en glaciologie. Et puis, maintenant, elle vit une partie de l'année au Spitzberg. Le Spitzberg, c'est un archipel d'îles norvégiennes, très au nord en Arctique, à 1000 km seulement du pôle Nord. Et là, elle enseigne. Et puis, elle passe aussi une bonne partie de son temps à faire des expéditions scientifiques, à aller sur le terrain. Et aussi, une bonne partie de son temps est employé à faire de la sensibilisation, des conférences et de la vulgarisation scientifique auprès de la jeunesse, mais aussi des décideurs politiques.
Alors, comment tu as rencontré Heidi?
Alors, avec Heidi, on s'est retrouvés parce qu'on est tous les deux passionnés par les glaces. Moi, mon métier consiste à faire des expéditions et à raconter, à partager des histoires du terrain. Heidi, elle est plus dans la science et on s'est retrouvés autour d'une conférence qu'on donnait tous les deux. On participait tous les deux à un événement à Paris, il y a de ça maintenant 6 ou 7 ans. Et de là est née une envie commune de faire des projets ensemble. Et donc, on a tous les deux rejoint un fonds de dotation pour faire de la sensibilisation sur les milieux polaires. Et puis, on avait ce travail un petit peu de bureau qu'on faisait ensemble, mais on n'était jamais allé vraiment sur le terrain. Et donc, on s'y est attelé et on a mené une expédition de terrain parce que c'est ça qui nous faisait le plus vibrer.
Alors, comment est-ce que ça a été décidé?
Alors,
qui a eu l'idée?
D'abord, c'est moi qui ai eu envie d'emmener une scientifique sur le terrain pour véritablement faire parler les glaces. Moi, vous le savez, je suis un explorateur, donc évidemment je connais le terrain, mais j'ai pas cette lisibilité scientifique parce que j'ai pas étudié les glaces comme Heidi a pu le faire. Et donc l'idée, c'était de s'associer avec une scientifique capable en fait de nous expliquer directement en fait le phénomène de réchauffement climatique à l'œuvre sur ces calottes polaires et de témoigner, de vulgariser, de sensibiliser sur le terrain. avec Heidi. Et donc Heidi n'avait peut-être pas la possibilité d'aller dans ces endroits-là, on va en parler, mais en kiteski. Donc moi j'étais là pour l'encadrer et puis pour mener l'expédition, la monter et organiser la logistique.
Attends, va pas si vite parce que le kiteski, tout le monde ne sait pas non plus.
T'as raison, on pourra en parler après.
Alors, qu'est-ce que c'est le kiteski?
Alors, avec Heidi, on est parti au Groenland pour traverser l'île en kiteski. Le kiteski, vous en avez certainement peut-être pas vu, mais vous avez déjà vu, j'imagine, le kitesurf sur l'eau, où on se déplace en fait avec une grande voile, comme un grand cerf-volant, qui nous permet en fait d'utiliser l'énergie du vent pour se déplacer. Nous, ce qu'on fait dans ces milieux-là, c'est qu'on utilise le même type de voile. À nos pieds, on a des skis. Et ça nous permet en fait de nous déplacer sur une calotte polaire.
Il y a beaucoup de vent au Groenland.
Au Groenland, il y a pas mal de vent, alors du vent qui est régulier, qui souffle du sud vers le nord. Et le vent, après, il peut être
mais
fort.
Mais s'il tourne, alors à ce moment-là, tu changes de direction.
Alors c'est un peu comme à la voile. On va remonter le vent si le vent vient.
D'accord. Donc tu tires des bords.
Exactement, on tire des bords. Et puis après, on a plein de voiles de tailles différentes qui nous permettent de nous adapter à la force du vent. S'il y a beaucoup de vent, on va utiliser une petite voile. S'il y a très peu de vent, au contraire, on va utiliser une grande voile pour pouvoir nous adapter.
Alors, qu'est-ce qu'on écoute maintenant?
on peut commencer par Zao de Sagazan, la symphonie des éclairs. C'est une artiste que vous connaissez certainement, mais qui a seulement 24 ans et qui est absolument détonnante. Je vous laisse écouter.
Radio Cité Genève, Viviane Devitt.
La bouteille à moitié pleine.
Si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. Dès sa plus tendre enfance, elle ne savait pas parler autrement qu'en criant tout bas. Pas faute d'essayer de les retenir, ses cris et ses larmes qui les faisaient tant. Il fait toujours beau au-dessus des nuages, mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterais sous la pluie la symphonie des éclairs. En grandissant, rien ne s'est calmé. Petite tempête s'est trouvée des raisons de pleuvoir autant. Qui pourrait l'aimer franchement? Personne n'aimerait se retrouver au cœur d'une tempête avouée. Il y a des raisons de pleurer, elle a ses raisons, mais il fait toujours beau au-dessus des nuages. Mais moi si j'étais un oiseau, j'irais danser sous l'orage. Je traverserais les nuages comme le fait la lumière. J'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci s'est dit. Nulle raison d'envier le soleil, je ferai danser les gens. Rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer les cœurs, réchauffer mon au-dessus des nuages. Mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage. Je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Mathieu Tordeur. Mathieu Tordeur, que vous connaissez bien maintenant, qui est un grand explorateur, spécialiste des pôles, spécialiste de la neige, du vent, du climat, et puis qui a organisé, avec son amie Heidi Sevestre, donc une glaciologue, je ne savais même pas que le métier existait, a organisé une grande expédition au Groenland en juin et juillet 2024. Tu as donc choisi des mois d'été, j'imagine que c'est parce que là-haut, il fait, j'ai lu qu'il faisait entre moins 10 et moins 40.
Ouais, l'été, alors il fait jour en permanence au Groenland, donc ça c'est intéressant pour nous parce que ça nous permet eh bien, de se déplacer quelle que soit l'heure de la journée, mais c'est aussi parce que les températures sont plus clémentes. Et à cette période de l'année, il peut faire effectivement jusqu'à moins 30 degrés peut-être sur les hauts plateaux, mais il peut aussi faire plus chaud, et nous c'est des températures qu'on a eues, on était plutôt aux alentours de moins 10 ou moins 15, donc évidemment c'est froid pour
c'est
nous.
C'est clément pour
mais
là-bas.
C'est plus clément pour ces contrées lointaines. Ouais.
D'accord. Alors donc, tu fais cette expédition avec un but scientifique.
Ouais, tout à fait.
C'est ça qui fait la différence finalement avec ce que tu faisais tout seul.
Ouais.
Quand tu faisais toutes tes expéditions dans les pôles, où au fond, c'était simplement pour traverser, pour prouver que c'était faisable, que c'était techniquement possible pour quelqu'un qui était tout seul et qui n'avait pas d'assistance extérieure.
Tout à fait. C'est vrai que là, vous faites référence à une expédition que j'ai faite en 2018, où je suis parti de la côte du continent antarctique pour rallier le pôle sud, donc l'axe de rotation de la Terre, hein, au cœur de l'Antarctique. Cette expédition, moi, je l'avais vécue tout seul et sans ravitaillement. Et derrière cette aventure-là, il y avait une vraie volonté, si vous voulez, de challenge, de défi. C'était un projet personnel, mais quand j'étais en Antarctique, à cette période de l'année, moi je me suis retrouvé confronté à un phénomène assez inédit pour le continent, qui était une canicule. Il y a eu une vague de chaleur très importante quand j'étais en Antarctique, avec des températures qui étaient 20 ou 25 degrés au-dessus des normales de saison, et ces températures chaudes se sont accompagnées de chutes de neige très importantes. Et moi quand j'ai vu ça, déjà ça m'a mis en difficulté, parce que cette neige fraîche, elle a ralenti ma progression, et quand je suis arrivé au bout de cette aventure, je me suis dit que j'avais une responsabilité, ou en tout cas une volonté de partager en fait ce que j'avais vécu sur place, et c'est de là en fait qu'est venu mon engagement et ma volonté de témoigner de ces bouleversements climatiques et environnementaux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui toutes mes aventures, elles sont en lien beaucoup plus avec les scientifiques, elles ont des objets en fait de sensibilisation, de vulgarisation, pour aller expliquer avec des mots simples ce qui se passe sur le terrain. Moi je peux pas le faire seul, et c'est pour cette raison que je me suis associé avec cette glaciologue Heidi Sevestre, puisque elle est glaciologue et elle est capable en fait d'expliquer les phénomènes peut-être beaucoup plus, de manière beaucoup plus précise que je peux le faire. Et donc cette dernière expédition qu'on a vécue avec Heidi au Groenland consistait à traverser l'île du sud au nord avec ses kiteskis, donc ces grands cerfs-volants qui nous aidaient en fait à parcourir l'île assez rapidement, puisqu'avec l'énergie du vent, on peut parfois parcourir 100 ou 150, voire 200 kilomètres en une seule journée. Et on est allé réaliser un tas de protocoles scientifiques pour voir comment le Groenland réagissait au réchauffement climatique et voir un petit peu son état de santé. Et donc ça consistait à faire des trous dans la glace et à récolter tout un tas d'échantillons sur des hauts plateaux, là où les scientifiques ne vont jamais, puisque ce sont des points qui sont très reculés sur la calotte polaire.
Alors Mathieu, on a besoin de vous imaginer tous les deux, Heidi et toi, vous êtes à ski avec vos voiles que vous changez suivant la force du vent. Ouais. Et vous avez un traîneau qui pèse 120 kilos, c'est ça?
C'est à peu près ça, ouais. Il faut s'imaginer, en fait, quand on se déplace, on a des harnais autour de la taille. Ce harnais, il est connecté à une voile qui va être devant nous. Cette voile, elle est au bout de 25 mètres de ligne ou 50 mètres de ligne. Donc
elle est loin.
Elle est loin, et ça permet, en fait, d'accrocher des vents qui sont plus en altitude, et puis de pouvoir la manipuler, la bouger pour lui donner de la puissance.
Tu as des boots comme la voile.
Exactement, on a une barre.
Cordages. Oui.
On a une barre et ensuite cette voile, elle est au bout de 25
mètres.
Alors
vous vous relayez à la barre? Comment ça
Alors,
se passe?
Alors on a chacun notre voile. Donc
chacun
manipule sa propre voile.
D'accord.
Et ensuite le harnais, il est connecté, comme vous le disiez, à un traîneau qu'on appelle aussi une poulka. Et dans cette poulka, il y a tout notre matériel pour camper. Donc on va trouver une tente, on va trouver un sac de couchage, un tapis de sol, des vêtements polaires, du matériel électronique pour recharger nos batteries, nos caméras, nos appareils scientifiques. Et on va trouver évidemment,
la
vous l'avez compris, la nourriture. Et c'est
alors,
l'essentiel.
Qu'est-ce que vous mangez là-haut?
Bah, c'est l'essentiel du poids d'ailleurs du traîneau. Nous, on a pris 30 jours de nourriture avec nous. Et donc, on a dans chaque, on a préparé des sacs dans lesquels il y a toute la nourriture pour une seule journée. Donc, on va trouver beaucoup de chocolat, de fruits à coque, de fruits secs. On va trouver également de la viande séchée, du fromage et puis de la nourriture qu'on appelle de la nourriture lyophilisée. Ça, c'est de la nourriture qu'on a déshydratée et qu'on va réhydrater avec de l'eau bouillante et ça va recomposer un plat. Donc, on a des hachis parmentiers, des spaghettis bolognaise, tout un tas de recettes et qui font du bien hein, parce que c'est le seul repas chaud de la journée.
Oui. Alors, et, vous avez une petite bouilloire, comment ça se passe?
Alors, on a des réchauds qui fonctionnent avec...
Du gaz
Non, alors c'est du fioul. En fait, le gaz ne fonctionne pas, ou en tout cas fonctionne mal, en dessous de 0 degré. En fait, il n'arrive pas à se libérer. Et donc, on utilise des réchauds avec des réchauds à...
Pétrole
à combustible. Et c'est des réchauds sous pression. Et ces réchauds nous servent à faire fondre la glace et la neige, parce que vous avez compris que là-bas, on n'a pas accès à l'eau. L'eau, elle est sous sa forme solide. Il faut la faire fondre. Et une fois qu'on la fait fondre, on obtient donc cette eau, on la met dans des thermos, sinon elle gèle très rapidement. On se rappelle qu'on est dans un univers où il fait tout le temps moins de 0 degré, donc on est un petit peu dans un congélateur. Donc l'eau, c'est vraiment une denrée rare et précieuse, et c'est les réchauds qui vont nous servir à faire fondre la glace.
On a du mal à imaginer que là-haut, dans tout ce froid, on n'a pas d'eau.
Bah, il y a une quantité fabuleuse hein, d'eau, mais elle est sous sa forme solide, donc c'est de la glace. Et au Groenland, il y a, c'est une réserve d'eau douce colossale. Hein. Je le disais, c'est une île qui est recouverte de glace et de neige. Il y a parfois 3 km d'épaisseur de glace au Groenland. Hein. Donc il faut imaginer que ça représente quand même une grosse ressource.
Quand on fait des sondages
en eau.
On a quoi? On a une espèce de piolet?
Alors aujourd'hui, au Groenland, il y a des scientifiques qui font ce qu'on appelle des carottages. Carottage, c'est vraiment, on va aller comme ça creuser la glace pour aller récolter, en fait, de la glace qui est emprisonnée dans la calotte polaire. Nous, on a utilisé des moyens plus rustiques. On avait des pelles, et ça nous a permis de faire des trous dans la neige de 3 mètres de profondeur. Et avec Heidi, en fait, on faisait ces trous pour analyser la densité de la glace. Ça nous permet de reconstituer les épisodes climatiques et météorologiques, puisque en fait le Groenland, il y a de la neige qui tombe tous les jours sur le Groenland, qui vient accumuler comme ça une couche de glace, et cette glace ensuite elle se tasse et ça permet de reconstituer les épisodes météorologiques passés et de voir un petit peu eh bien la quantité de neige qu'a reçu le Groenland, quelle est la quantité de pollution aussi qu'on peut trouver dans cette glace et cette neige. Et donc on a fait des études sur la densité et sur la qualité de la neige.
On va en parler tout à l'heure, mais là, tu as bien choisi le titre.
La suite, c'est Lana Del Rey, Summertime Sadness. Et ça, moi, c'est marrant parce que ma collègue Heidi, pendant cette expédition, a écouté à tue-tête cette chanson. Donc, à chaque fois que je l'entends à nouveau, je me souviens exactement de
l'endroit,
ces moments dans
la tente
et l'endroit dans lequel on était avec Heidi.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, beauty queen style. Heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above, all sizzling like a snare. Honey, I'm fine, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me hard before you go. Just wanted you to know, baby.
cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh my God, I feel it in the air. Telephone wires above are sizzling like a snail. Honey, I'm on fire, I feel it everywhere. Nothing scares me anymore. Kiss me all before you go.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec l'explorateur Mathieu Torder, qui nous parle de sa dernière expédition au Groenland, en kiteski. On sait maintenant que c'est à ski, mais avec des voiles qui sont très éloignées.
Ouais.
Tu m'as dit tout à l'heure...
25 ou 50 mètres.
Ouais. 25 ou 50 mètres de toi.
Ouais.
Et puis vous changez vos voiles, et puis tu as une barre, tu barres, et puis vous avez...
Piloté.
Voilà, tu pilotes. Et vous avez, tu as fait cette, donc cette expédition avec Heidi Sevestre, qui est donc glaciologue. On a découvert ce que c'était qu'une glaciologue. Et le but pour vous deux, c'était de recueillir des données scientifiques sur la densité de la neige et la pollution présente à la surface de la calotte polaire.
Tout à fait.
Ceci m'amène à te poser immédiatement une question. Comment est-ce qu'il peut y avoir de la pollution là-haut?
Bah, c'est vrai qu'on est loin de toute activité humaine. Hein. Le Groenland, c'est une île qui est gigantesque. Et pourtant, on retrouve des traces de pollution.
Alors, la pollution, c'est quoi là-haut?
Alors, la pollution, c'est une pollution qui se retrouve sous forme de microparticules. Si vous voulez, aujourd'hui, les industries, la pollution des pots d'échappement...
Ça monte jusque là-haut?
Alors oui, parce que c'est la pollution qui est atmosphérique et aérienne. Et par les courants de vent, en fait, se dépose un petit peu partout. Il y en a dans les rues de Genève, il y en a à Paris, il y en a aussi sur la banquise.
Non, mais on imagine davantage dans les rues de Genève ou de Paris.
C'est vrai, et pourtant, elle existe aussi sur ces surfaces blanches, sur ces surfaces glacées. Et ça, c'est un vrai problème. Pourquoi ? Parce que cette pollution, elle est sombre, elle est foncée. Et vous savez que
elle tache la neige.
Elle tache la neige, elle vient se déposer sur cette calotte polaire et ça vient l'assombrir. Et le fait que ça l'assombrisse, ça accélère sa fonte parce que vous savez que les rayons du soleil, les rayons lumineux, sont attirés par les couleurs sombres. Vous avez tous fait l'expérience de mettre votre main sur le capot d'une voiture sombre et votre main sur le capot d'une voiture claire. Bah, la voiture sombre, elle est beaucoup plus chaude que la voiture claire. Pourquoi ? Parce que les couleurs sombres, les couleurs foncées captent l'énergie du soleil. Et quand on a des calottes polaires qui sont assombries par des microparticules noires, eh bien, ça accélère le processus de fonte. Et donc, cette pollution vient accélérer la fonte du Groenland et de la banquise. Et donc, au Groenland, on sait qu'il y a de la pollution. On ne sait pas forcément exactement d'où elle vient et en quelle quantité, parce que parfois c'est sous forme de microparticules et donc ça se voit pas forcément à l'œil nu. Parfois ça se voit, mais parfois ça ne se voit pas. Et donc notre projet avec Heidi consistait à aller dans des points reculés de cette calotte polaire pour faire ces échantillonnages. Et donc aujourd'hui on a tout un tas d'échantillons qui sont en cours d'étude dans un labo de glaciologie américain au Colorado, spécialiste du noir de carbone, pour aller déterminer la quantité de noir de carbone dans cette neige et essayer d'identifier d'où provient cette pollution. On a déjà des idées, hein, puisque ce noir de carbone, ce sont des résidus de la combustion des énergies fossiles. Donc ça veut dire que ce sont des pots d'échappement, comme je le disais, mais ce sont aussi, par exemple, des feux de forêt qu'il y a eu en Sibérie ou au Canada, qui envoient dans l'atmosphère eh bien, des microparticules de carbone et qui se déposent un petit peu partout. Et donc ça a un effet vraiment très néfaste pour les calottes polaires.
Alors, on t'imagine donc avec Heidi Sevestre, vous êtes tous les deux, vous avez chacun votre voile, ouais. Vous tirez votre traîneau de 120 kilos, ouais. Sur lequel vous avez tout le ravitaillement, ouais. et toute votre vie en quelque sorte.
Absolument.
Qui vous permet de survivre dans cet environnement qui est quand même assez hostile.
Ouais, faut le dire. Ouais.
Plus que ça même. Mmh. Hein. Alors, qui rencontrez-vous dans cette... Est-ce qu'il y a des gens qui habitent, et tu m'en as parlé tout à l'heure, mais très rapidement. Ils sont qui?
Voilà. Alors au Groenland, il y a environ 55 000 habitants qui vivent à l'année sur l'île.
Mais ils sont nés là-bas ou ils sont là-bas en opération scientifique aussi?
Non, alors ce peuple s'appelle les Inuits. Et ces Inuits, non, sont nés sur place. Alors après,
c'est les Esquimaux?
Ouais, absolument. Alors Esquimaux, c'était l'ancien nom qu'on leur donnait. Aujourd'hui, on les appelle les Inuits. Et donc il y a des villages qui sont sur la côte du continent et ils sont uniquement sur la côte puisque c'est là un peu qu'il y a de la vie et que le climat est plus clément, plus acceptable.
Alors, ce sont eux qui vivent dans les igloos.
Non, ce sont plus des igloos.
C'est fini, ça.
Alors, c'est fini. C'est un peu l'imaginaire qu'on a. Non, aujourd'hui, ils vivent dans des petites maisons colorées et ils sont adaptés. Hein,
colorées, c'est-à-dire jaune, rouge, bleu, vert.
Ouais. Alors, à l'époque, en fait, les maisons étaient, on pouvait identifier. Les maisons en fonction de leur couleur. Il y avait parfois des bâtiments qui étaient gouvernementaux, qui étaient bleus, je dis n'importe quoi, d'autres qui étaient plutôt liés à la vie de la société, qui étaient rouges, d'autres qui étaient privés, qui étaient verts. Et donc, en fait, ça fait des villages comme ça qui sont très colorés et très, très charmants. Et donc, ils vivent dans ces petites maisons, dans ces villages.
Quand est-ce qu'ils ont abandonné les igloos?
Alors, ils ont abandonné les igloos parce que je pense que les igloos, c'était vraiment des techniques un petit peu de survie, hein. C'était pour se protéger des éléments et ça, c'est vraiment dans notre imaginaire et ils ont pas vécu longtemps
dans des igloos.
Non, ils se fabriquaient plutôt d'abord des cabanes et puis aujourd'hui, ce sont des petites maisons chauffées et assez confortables. Mais donc, il y a des gens qui vivent de manière permanente, hein, au Groenland.
Ils sont nés là-bas et ils vivent.
Ouais, voilà. Tout à fait.
Et ils n'imaginent pas une autre vie.
Alors, non, en fait, il y a un lien avec le Danemark, avec le Groenland et donc, il y a parfois des jeunes qui vont étudier au Danemark, où il y a des échanges comme ça avec le Danemark, et parfois il y a des jeunes qui vont faire leurs études au Danemark et qui reviennent. Et il y a des...
ils reviennent pour vivre dans cette immensité glacée.
Ouais, alors dans ces petits villages, parce qu'il faut bien comprendre qu'au cœur du Groenland, il n'y a rien ni personne. Nous, avec Heidi, on est parti d'un village qui s'appelle Ilulissat, et le projet c'était d'aller rejoindre le village...
Ilulissat.
Ouais. Et notre projet, c'était d'aller rejoindre le village le plus au nord du Groenland, qui s'appelle Kanak, qui était à 1500 kilomètres de notre point de départ. Et entre notre point de départ et l'arrivée, nous, on n'a croisé rien ni personne. On aurait pu croiser des ours.
Il n'y a pas d'animaux non plus ?
Alors, il y a des animaux, il y a des ours polaires au Groenland, mais encore une fois, ils sont plus proches de la côte, parce que c'est là qu'il y a à manger. Au cœur de la calotte, on est vraiment dans un grand désert où il n'y a pas de poissons, il n'y a pas de phoques. Donc, nous, on a eu la chance de ne pas en croiser. Et autrement, on aurait pu voir des oiseaux, on en a croisé quelques-uns, mais pas beaucoup. Le cœur de la calotte polaire groenlandaise est hyper hostile. Hein. Il fait très froid l'hiver et il fait quand même assez froid l'été et il n'y a pas à manger. Donc les animaux, ils sont plutôt sur la côte du continent. Et nous, on n'a croisé rien ni personne pendant quasiment un mois.
Un peu angoissant, non?
Donc, ouais, grande solitude, mais après, voilà, c'était la raison pour laquelle on était là, et c'est aussi parce que personne n'y va que c'était intéressant sur le plan scientifique. Parce oui. que aller dans ces contrées-là, c'est difficile. Et puis, y aller avec un avion, avec un motoneige, eh bien, c'est un petit peu...
C'est pollué.
C'est pollué le milieu, et donc c'est un petit peu contre-productif.
Qu'est-ce qu'on écoute maintenant?
Alors, on va écouter Al Jay, une musique qui s'appelle Tarot. Ça, c'est une musique que j'ai énormément écoutée dans mes aventures. Donc, moi, elle me rappelle le premier grand voyage que j'ai fait, qui était un voyage en 4L pour promouvoir la microfinance. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit, mais je suis venu avec.
Et donc, en 4L
avec la 4L. Donc,
ah,
Al Jay, Tarot de Al Jay.
Radio Cité Genève, Viviane De Witte.
La bouteille à moitié pleine.
I have sprayed you into my eyes.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec l'explorateur Mathieu Torder, et nous le suivons depuis un moment dans sa dernière expédition au Groenland, en kiteski, avec son amie Heidi Sevestre, et tous les deux, ils avaient un triple objectif. Alors, c'est vivre une aventure hors norme.
Ouais.
Ça, je crois qu'on peut vraiment qualifier ça d'hors norme dans la mesure où il n'y a personne qui vit là-haut. C'est l'immensité glacée.
Tout à fait.
Sans animaux, sans personne.
Ouais, juste du
un
blanc
froid,
à perdre de
un
vue.
Froid polaire, ouais. Qu'à de le dire. Hein. Et puis, avec un mode de déplacement innovant.
Ouais.
Parce que personne ne s'est déplacé en kiteski. On a compris maintenant ce que c'était. Donc, des skis avec des voiles à distance, une barre, des boots. Voilà. Naviguer un peu.
C'est le même principe que, vous avez raison, c'est le même principe que la voile. Finalement, on utilise une ressource qui est présente en permanence au Groenland, qui est le vent, et qui nous permet en fait de nous déplacer. C'est beaucoup plus rapide d'utiliser l'énergie du vent que son énergie musculaire. Moi, quand je suis allé au pôle sud, je faisais péniblement 25 ou 30 kilomètres par jour en skiant 10-12 heures. Là, si on fait du kiteski pendant 10 ou 12 heures et qu'on a un vent régulier, on peut parcourir 150 ou 200 kilomètres. Donc
ah
ça
oui.
ouvre tout de suite en fait des perspectives assez géniales pour aller sur les hauts plateaux du Groenland de manière assez rapide, agile, innovante et puis respectueuse de l'environnement. Et donc, on a utilisé une technologie qui existe déjà, hein. Le kitesurf, on a tous vu du kitesurf sur l'eau. Là, c'est exactement pareil. On a des skis au pied et on a des grandes voiles qui nous tractent et qui nous permettent de nous déplacer.
Alors, j'imagine que vous avez eu des sponsors qui fabriquent ces kiteskis. Comment ça se passe?
En fait, il y a des voiles de kite et puis après il y a des skis. Donc c'est pas c'est deux
c'est
disciplines
qu'on
associe.
C'est vous qui les avez mis ensemble.
Exactement. Et nous on les rassemble et ça fait le kiteski. On a utilisé des voiles de kite d'une marque qui fabrique des voiles de parapente et donc c'est une marque qui est bien connue qui s'appelle Ozone. Et ensuite on a eu des partenaires, des sponsors qui nous ont accompagnés sur toute la réalisation de l'expédition, puisqu'un projet comme celui-ci est évidemment coûteux, hein, le Groenland, pardon, c'est un territoire qui est lointain, qui est potentiellement dangereux, et donc il faut faire face à des risques potentiels, et donc il y a des assurances à prendre, il y a du matériel spécifique, et puis
spécifique, c'est quoi, Mathieu?
Bah, ce sont des traîneaux adaptés au déplacement. Ce sont des traîneaux dans lesquels on va pouvoir stocker tout notre matériel et qui va pouvoir résister aussi à pas mal de chocs, puisque quand on fait du kiteski, on peut se déplacer parfois à 25, 30 ou même 40 km/h. Donc ça, c'est des matériels.
Mais qu'est-ce que tu heurtes? Il y a des
La calotte polaire, elle est pas toute plate. Elle peut être accidentée.
Tu veux dire que vous faites des bonds sur la neige?
On essaye de pas trop en faire, hein, pour pas se blesser. Mais c'est vrai que le terrain peut parfois être gelé, glacé, et puis il peut y avoir des petites bosses. Et donc, il faut contourner, éviter.
Tu fais pas du tremplin, quand même.
Non, mais c'est vrai que quand on se déplace à 20, 30 km/h, le traîneau, il peut quand même subir un certain nombre de vibrations et de chocs. Et donc, pour ça, il faut bien étudier son matériel en amont. Parce qu'une fois qu'on est sur place, il n'y a pas d'hécatlon sur la route, quoi. Donc, il faut avoir du matériel.
Et alors, vous avez du matériel pour réparer si vous avez des avaries?
Ouais, bien sûr. On a une trousse à pharmacie et une trousse à réparation qui sont assez importantes et qui nous permettent, de subvenir à toutes les avaries ou problèmes techniques qu'on pourrait avoir.
Et est-ce que vous êtes armé?
Alors, on est armé parce que on est sur le territoire de l'ours polaire. L'ours, théoriquement, il est proche de la côte. C'est là qu'il va trouver des phoques, du poisson, qu'il va pouvoir s'alimenter. Au cœur de la calotte polaire, on est loin de l'océan. Et donc, théoriquement, on n'est pas susceptible de voir un ours. Mais c'est une possibilité. Et donc, on avait un fusil.
Mais ça serait horrible de tuer un ours blanc.
Alors, ce serait vraiment la pire des choses. Et c'est vraiment en dernier recours. On a aussi un certain nombre de matériel de dissuasion avec des fumigènes, avec une corne de brume, des fusées éclairantes, exactement, qui pourraient faire fuir un ours si jamais on avait une confrontation. Exactement. Mais heureusement pour nous, on n'en a pas croisé. Et donc, le fusil est resté sagement.
Il
n'y
a pas de renard des neiges là-haut.
Il peut y avoir des renards polaires. Il peut y en avoir, oui, tout à fait. Nous, on n'en a pas croisé. Encore une fois, la vie se cantonne aux côtes. Et nous, on a rapidement quitté la côte pour aller au cœur de la calotte et accrocher des vents. Et une fois qu'on est redescendu, on a croisé des petits lapins, des oiseaux.
Des lapins tout blancs aussi.
Ouais, des lièvres arctiques. Ouais, on a croisé. Bon, ça, ils sont inoffensifs. Et donc,
on n'a pas besoin de les tuer pour les manger.
Non, on avait suffisamment de nourriture.
D'accord. Et alors, votre but aussi, c'est d'arriver à de la sensibilisation
absolument,
pour les jeunes.
Ouais,
parce
ouais.
que tu penses que l'aventure, c'est la façon de leur parler du développement climatique, et
du réchauffement
climatique et de... Voilà, et des problèmes
environnementaux. Et ouais. Bien sûr, si vous voulez, on est tous au fait du réchauffement climatique et des bouleversements du climat. C'est sûr qu'aujourd'hui, ça paraît anxiogène. On ne sait pas forcément comment réagir, comment comprendre et comment nous agir. Et moi, je remarque que l'aventure, l'exploration, les grandes épopées comme celles qu'on a pu faire avec Heidi au Groenland sont des portes d'entrée assez formidables pour porter ces sujets. Pourquoi ? Parce que c'est spectaculaire, ce sont des belles images et ça permet de toucher peut-être une population qui s'intéresserait pas au phénomène de réchauffement climatique autrement. Moi, je remarque qu'on me tend assez facilement le micro pour partager mes aventures.
La preuve.
Et j'en suis très heureux. Et porter ces sujets par la porte d'entrée de l'aventure ou des grandes expéditions, c'est une manière en fait d'amener ce sujet du réchauffement climatique de manière peut-être un petit peu plus accessible en sortant des rapports ou des études ou des graphiques qui sont évidemment essentiels mais qui sont parfois un petit peu inaccessibles,
arides,
difficiles ouais. d'accès et de compréhension. Et donc moi, mon idée, si vous voulez, avec mes activités aujourd'hui, c'est de véritablement faire le lien entre la communauté scientifique qui alerte avec les rapports du GIEC, avec des recherches, avec des études, et le grand public qui, lui, parfois a du mal à s'intéresser à ces sujets-là, et donc de faire le pont entre les scientifiques et le grand public par le biais de l'aventure. Donc ça passe par des expéditions, ça passe par des prises de parole auprès des étudiants, auprès des écoliers, auprès des écoles, mais aussi des prises de parole dans les entreprises pour véritablement porter ce sujet avec ce prisme, cette porte d'entrée qui est l'aventure et qui est peut-être un petit peu plus facile d'accès, je le disais.
Est-ce que tu te sens un peu lanceur d'alerte auprès des gouvernements?
Moi, lanceur d'alerte, je sais pas, mais plutôt témoin. Plutôt témoin, ambassadeur, témoin. Vulgarisateur. Je crois vraiment qu'on a besoin de tout le monde. On a besoin des scientifiques, on a besoin des médias, on a besoin de communicants pour parler de ce qui se passe sur le terrain, pour essayer d'infléchir un petit peu la direction qu'on est en train de prendre de manière collective et qui va évidemment pas dans la bonne direction. Et donc la casquette, si vous voulez, que je me suis donnée, c'est vraiment ça. C'est de faire de la sensibilisation, de la communication scientifique sur ces sujets. Et pas seul. C'est pour ça que je travaille avec Heidi Sevet, cette glaciologue dont on a parlé.
Qu'est-ce qu'on écoute maintenant? Je crois que le titre est parlant.
Le titre est à propos. On va écouter Voyager de Daft Punk.
Radio Cité Genève. Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.
Vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine, avec Mathieu Tordeur. Mathieu Tordeur, c'est le grand explorateur français qui nous a emmené tout à l'heure, vous l'avez entendu, au Groenland, dans sa dernière expédition avec le professeur Heidi Sevestre. Mais mon cher Mathieu, tu as d'autres projets, vous avez tous les deux, avec Heidi, d'autres projets dont j'aimerais que tu nous parles.
Alors les aventures ne s'arrêtent pas là, le Groenland c'était une aventure fabuleuse qu'on a vécue avec Heidi, mais qui était la première expédition. Avec Heidi on se connaît depuis longtemps, mais on n'avait jamais fait d'expédition ensemble sur le terrain, et c'est important quand même d'apprendre à se connaître dans ces situations.
Et ça, parce qu'après, il faut cohabiter.
Il faut cohabiter pendant 30 jours dans la même tente, dans des conditions qui sont quand même très spartiates, hein, il faut le dire. Et avec Heidi, ça nous a donné l'idée et l'envie de mener une expédition qui soit plus longue, plus ambitieuse, avec un objectif scientifique plus marqué encore. Vous savez que les calottes polaires, comme le Groenland ou l'Antarctique, ce sont nos réserves d'eau douce sur la planète. Ce sont aussi des réflecteurs de chaleur. Pourquoi ? Parce que ces calottes polaires, elles sont claires, elles sont glacées, elles sont blanches, et les rayons du soleil en fait sont réfléchis dans l'atmosphère une fois qu'ils tapent ces calottes polaires ou ces banquises. Donc on a ces, au pôle nord et au pôle sud, des endroits qui sont glacés et qui viennent équilibrer le climat global de la planète. On appelle ça donc des climatiseurs. Et aujourd'hui, vous le savez, ces climatiseurs sont menacés puisque le réchauffement global vient grignoter ces calottes polaires et viennent les faire fondre. On sait que ça fond, on ne sait pas exactement à quelle vitesse. Et avec Heidi, notre idée est de répéter une expédition qu'on a faite au Groenland, mais en Antarctique, donc en utilisant ces kites pour aller mesurer l'épaisseur de la calotte polaire et évaluer la contribution de l'Antarctique à l'élévation du niveau des mers.
Mathieu, pour évaluer la dimension de la calotte polaire, tu ne vas pas pouvoir y aller avec ta pelle, là.
On ne va pas y aller avec une pelle, effectivement. On va y aller avec des moyens qui sont plus technologiques. On va utiliser ce qu'on appelle des radars à pénétration de sol. Donc en gros, ce sont des radars qui viennent envoyer une onde dans la calotte polaire pour mesurer son épaisseur. Et c'est intéressant puisque
ça ressemble à quoi, ce radar ?
Alors c'est un appareil, si vous voulez, qui vient scanner en fait la surface glacée et qui vient comme ça envoyer une onde et mesurer donc l'épaisseur, mais aussi.
Le radar, il fait quelle dimension, lui ?
Alors c'est des radars qu'on va tirer derrière nos traîneaux. Donc c'est des radars qui font environ 80 cm sur 80 cm, qui sont pas très lourds, qui font 20 kg, mais qui vont être comme ça montés sur des patins.
Pas très lourds, mais 120 kg,
non, ils font 20 kg
sur les 120 kg du...
Ça s'ajoute, ouais.
Ça s'ajoute,
ouais,
hein, quand ça même. Donc c'est en plus des 120 kg ?
Ouais, absolument. Ouais,
donc vous traînez 140 kg ?
Alors c'est surtout le kite, hein, la ouais. voile qui va faire le job, mais oui, ça s'ajoute au traîneau, donc c'est un poids en plus. Mais ça, c'est hyper intéressant parce que ça nous permet, si vous voulez, de collecter des données de manière passive, c'est-à-dire que nous, quand on va se déplacer, le radar il va être en action, il va être en fonctionnement et donc il va comme ça récolter tout un tas de données sur cette calotte.
Mais il y avait déjà des radars en activité, mais alors, je crois par voie aérienne, c'est
ouais,
ça ?
Oui, tout à fait, il y a des radars qui ont été passés dans la région dans laquelle nous on va se diriger, mais par voie aérienne et par voie terrestre, il y a des endroits où ce sont encore des pages blanches, où on ne sait pas exactement.
Qu'à de le dire, la page blanche.
C'est tout à fait bien trouvé. Et dans cette calotte polaire, c'est intéressant de connaître l'épaisseur, mais c'est aussi intéressant de connaître ce qu'il y a à l'intérieur. Est-ce qu'il y a des rivières souterraines ? C'est possible. Est-ce qu'il y a des lacs sous glacières ? C'est possible aussi.
Ça serait des bonnes réserves, alors là.
Ce sont des réserves d'eau douce, mais c'est aussi des éléments qui viennent accélérer la fonte, puisque ça lubrifie la base de la calotte polaire, et donc ça peut accélérer sa fonte. Et donc aujourd'hui, nous, on travaille avec Heidi pour se diriger vers ces zones de l'Antarctique qui sont encore inexplorées, pour aller mesurer l'épaisseur de la calotte et voir un petit peu ce qu'il y a dans cette calotte polaire et voir à quel point cette calotte polaire contribue à l'élévation du niveau des mers. L'année prochaine, en 2025, c'est une année charnière puisque l'ONU a déclaré l'année prochaine comme l'année internationale de préservation des glaciers. Donc c'est une année qui est très importante pour les calottes polaires et donc c'est hyper important de savoir quelle est la contribution à la fois du Groenland mais de l'Antarctique à l'élévation du niveau des mers. On sait que l'Antarctique contient suffisamment de glace pour contribuer à une élévation de 58 mètres des océans partout sur le globe s'ils venaient à fondre en totalité. Alors, c'est pas demain, mais les glaciologues...
Il vaut mieux pas habiter sur les bords d'un lac, d'une rivière ou...
Il vaut mieux habiter en altitude. Hein. D'ici 2070, on constatera une élévation du niveau des mers de 1 mètre. et si ça fondait
un mètre,
ouais. Donc aujourd'hui il y a quand même 700 millions de personnes qui vivent à moins de 10 mètres d'altitude sur notre planète. Donc ça veut dire que si l'élévation du niveau des mers, on n'arrive pas à contenir cette élévation du niveau des mers, il y a des villes comme Miami, comme Bombay, comme New York qui vont être sous les eaux. L'île de Ré en France sera sous les eaux. Donc c'est pas de la science-fiction, c'est vraiment quelque chose qui est important de mieux comprendre. Et aujourd'hui, il y a tout un tas de scientifiques qui travaillent sur le sujet, mais qui sont souvent sur des bases sur la côte du continent. Et au cœur du continent, là où on se dirige avec Heidi, on manque cruellement de données, et ces radars n'ont jamais été véritablement passés. Donc l'idée, c'est à la fois de faire un projet d'aventure, puisque c'est la manière en fait de trouver des partenaires et de rallier, si vous voulez, le grand public à notre cause, un projet scientifique assez inédit, puisqu'on n'a jamais fait d'expédition scientifique avec des kites, et avoir aussi un nouveau message sur les expéditions scientifiques, montrer qu'on est capable de faire de la science aussi un peu différemment, et d'utiliser aussi ce momentum politique, je vous le disais, qui est 2025, puisqu'en 2025, année internationale de préservation des glaciers déclarée par l'ONU, on a aussi un sommet mondial sur les océans qui aura lieu à Nice, qui s'appelle donc l'UNOC, en juin.
Tu crois qu'il y aura beaucoup de représentants américains avec la position de Monsieur Trump?
On espère. Ce qui est sûr, c'est que c'est un peu la
COP. Faire changer d'avis.
En tout cas, montrer qu'il y a des intérêts à la fois de business, mais aussi de sécurité mondiale à préserver les océans, puisque tout est un petit peu lié. On attend beaucoup de chefs d'État à Nice en juin. Et donc, l'année 2025, elle est très... très déterminante pour l'avenir des glaciers et des océans, et donc attirer les projecteurs sur une expédition comme celle-ci est à mon sens assez stratégique et importante pour tout simplement l'avenir de l'humanité.
Mathieu, c'est grave ce que tu nous dis là. Merci beaucoup d'être venu témoigner. C'est trop court cette émission.
Merci pour l'invitation, et on aura l'occasion de
revenir. Oui, alors justement, je te donne rendez-vous lors des prochaines expéditions, que tu viennes encore nous les raconter.
Avec grand plaisir.
Et nous faire partager ce qui est essentiel, puisqu'il en va de l'avenir de l'humanité.
Avec grand plaisir, Viviane.
À bientôt, Mathieu. Merci. C'était donc Mathieu Tordeur. Et on remercie aussi Olivier Steinmetz qui nous a enregistré aujourd'hui. Et à bientôt.
À bientôt.
Radio Cité Genève, Viviane De Witt.
La bouteille à moitié pleine.